Bonjour et bienvenue dans les hors-séries de Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast. À l'occasion du printemps des champagnes, je vous invite à partager un voyage sonore au cœur des terroirs de chacun des membres de l'association des pieds et des vins. Imaginez-vous, entouré des vignes de champagne, baigné par un doux soleil printanier, et laissez-vous transporter dans chaque parcelle où les vignerons et vigneronnes de ce groupe vous ouvrent les portes de leur univers en partageant avec vous un souvenir qui leur est cher et une dégustation de vin clair. Ces vins sont le reflet de la dernière vendange, où chaque gorgée est une aventure sensorielle qui se révèle comme une histoire à déguster. Explorons donc sans plus attendre les secrets de leur terroir et la sensibilité qui ne demande qu'à s'exprimer dans chacun de ces futurs vins de champagne. Je vous propose de débuter ce voyage à Avize, aux côtés d'Étienne Calsac.
J'ai eu la chance de faire partie de l'embryon de Des Pieds des Vins, puisque c'est un groupe qu'on a co-créé avec Agnès Corbon en 2015. Et 9 ans après, c'est dingue de se dire que ça fait 9 ans après. C'est fou ce que le temps passe vite, ça nous paraît hier. Et c'est toujours un groupe dans lequel il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a des vraies amitiés, on est unis. On est toujours contents de se retrouver et de partager des bons moments et partager nos vins, nos visions. Et puis on évolue ensemble, on grandit ensemble. Et ça, c'est vachement agréable. On a hâte de retrouver l'ambiance du printemps des champagnes le 15 avril en ce qui nous concerne, de retrouver nos amis des quatre coins de la planète, de France, les locaux, autour d'une belle fête autour du champagne. Aujourd'hui, j'ai choisi un vin clair de Petit Mélier parce que c'est un cépage qui me tient à cœur, que j'ai planté l'année de mon installation, donc en 2010. J'ai toujours eu un intérêt pour les vieux cépages, donc je suis très content de pouvoir le goûter aujourd'hui. C'est une parcelle qui est située à Montgenot dans le Cézannais, sur laquelle il y avait des chardonnays qu'on a arrachés. Et dessus, j'ai replanté Petit Mélier, Pinot Blanc, Arban. Et tous les ans, j'arrive à isoler quand même le Petit Mélier, une petite partie, hein, et à pouvoir le déguster à part. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial parce que je trouve que c'est super intéressant de pouvoir goûter le vin, son côté variétal, sur le même lieu dit tous les ans. Donc là, on est sur la vendange 23, qui était plutôt jolie pour les blancs. Enfin, je veux dire, on a eu un début de saison qui était un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de pluie, enfin, comme tout le monde, mais globalement, ça s'est pas trop mal goupillé. Des jolis blancs qui ressortent, donc le Petit Mélier est un blanc. Enfin, en fait, on a tendance à l'oublier, mais c'est un blanc de blanc, quelque part. On est sur des vins qui sont plutôt mûrs, voire très mûrs. C'est toujours plus mûr que le reste, à rendement égal. Donc on est sur des vins qui sont à 12,5 en potentiel alcool. Et toujours avec des pH plus bas. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un cépage qui fait le grand écart entre des acidités marquées et des alcools marqués, quoi. On retrouve bien les caractères du cépage. C'est assez exotique, herbacé. Il y a quand même une trame, comme un squelette qui se profile, je trouve, quand même le vin en hauteur. Donc particularité de Côte de Cézanne aussi, c'est que c'est un terroir qui est mûr, c'est assez sableux, avec des sous-sols crayeux. Enfin, la parcelle exposée est où ça mûrit bien, et je trouve que ça permet de découvrir complètement le cépage. Il n'est pas du tout austère, il est toujours mis à nu tous les ans. On voit vraiment ce que ça peut goûter. C'est vinifié dans des demi-muis, donc des grosses barriques de 600 litres, sur lesquelles je suis assez un peu interventionniste. Il n'y a pas de bâtonnage, c'est juste des vouillages et c'est levé sur lit.
Restons encore un peu à Avize et arrêtons-nous cette fois chez Agnès Corbon.
Des pieds et des vins, j'ai la chance d'en faire partie depuis 2015. La première fois, Étienne, il avait dit « si on voit 120 personnes, ce sera bien ». Et donc la première fois, on est au Bois Joli, entre Épernay et Reims. Et Tim me fait goûter, je le connais à peine Tim, hein, et il me fait goûter un rosé, les Ogos d'Héraclite en 2005. Et c'est incroyable, je m'en souviens encore. Ça arrive parfois avec le vin, moi personnellement ça m'arrive rarement avec le champagne parce qu'on est toujours un petit peu dans l'analyse, etc. quoi. Mais là, ouais, j'ai trouvé ça super quoi. Et forcément, hein, moi 60% de mon encépagement, je fais du chardonnay, moi j'ai grandi à Avize, mon domaine est à Avize, je suis plutôt chardonnay girl. Mes pinots, mes meuniers, souvent je les garde pas. Donc pour moi, c'était un truc, c'était pas pour moi, quoi. Et en fait, en goûtant ce truc-là, je me suis dit, ah, quand même, un jour où ce sera une belle année pour les noirs, j'essaierai quand même de faire ça, quoi. Ça, c'est vraiment des pieds et des vins, quoi. Je pense que sans des pieds et des vins, j'aurais jamais fait de rosé. Donc cette année, au printemps, on est installé au Crypto Portique, en plein centre-ville de Reims. Là, ça va être un bel endroit et j'ai hâte d'y être et je pense que ça va être super.
En 2023, pour la première fois, je n'ai pas pressé mes raisins ici et j'ai récupéré mes moûts sortis de débourbage, en fait, le lendemain du pressurage. Et j'ai fait deux parcellaires d'avis. Et donc là, ce que je propose de goûter, c'est un de ces parcellaires, c'est les Terres des Maladries. C'est dans le bas d'Avise, c'est la parcelle la plus vieille que j'ai sur le domaine. C'est une parcelle qui est plantée en 1964 par mon grand-père et j'adore cette parcelle. On a un métier rigolo hein, qui fait que rien n'est jamais complètement professionnel. Il y a toujours beaucoup d'émotionnel, d'affectif. Et donc cette parcelle, c'est juste derrière là où habitait ma grand-mère. Donc j'adore cette parcelle. C'est toujours bien mûr, c'est une sélection massale, ça ne fait jamais beaucoup de raisins. Et donc s'il y a des raisins, donc sauf les années où ça gèle, en règle générale, c'est ce que je garde pour faire mes vins. Là, en termes de vinification, c'est 4 fûts. J'ai gardé 2 fois 15 hectos. En fait, j'ai gardé cette parcelle-là qui s'appelle la Terre des Maladries. Et puis j'ai gardé une parcelle qui s'appelle le Chemin Chalon. Chemin Chalon, c'est pratiquement la frontière entre Avise, Cramant et Oiry. Et donc j'ai 4 fûts des Terres des Maladries, et ça c'est un assemblage des 4 fûts. C'est la première fois que je vais le goûter, pour l'instant je les ai toujours goûtés au fût, c'est la première fois que je goûte l'assemblage. Je trouve ça super bon. C'est vrai, il y a le côté acidulé, un petit peu agrume. Puis le côté un peu floral, assez typique d'Avise. Quand je goûte ça comme ça, c'est super.
Je vous propose à présent de reprendre la route en direction de Vrigny afin d'y retrouver Guillaume Sergent.
Des pieds et des vins, c'est une bande de potes, c'est une bande de cinglés. Au départ, vraiment, chez nous, enfin... On est là pour se marrer, quoi. En vrai, c'est ça. Et on est capable d'envoyer des projets improbables sur la table quand on discute. On va discuter du printemps des champagnes. Quand on cherche une salle, il y a un moment, il y a des gens qui disent « Bah, et si on louait une péniche ?» Ouais, pourquoi pas, n'importe quoi. « Et si on partait en bus pour faire le des pieds des vins World Tour ?» On part sur des délires comme ça, mais le truc, c'est que c'est pas un mot. Ça va durer très longtemps, ces délires-là. On rigole plus qu'autre chose. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment la typicité des pieds des vins. On se prend pas la tête. Des moments, on n'est plus des vignerons, on est des gamins autour d'une table. Des pieds des vins, ouais, c'est pas seulement une union pour vendre du pinard. C'est une bande de potes. Vraiment, ouais. C'est un drôle, on s'amuse et on s'entend bien. Et aussi, quand on est dans la merde, t'appelles l'un, t'appelles l'autre. Soit t'es rassuré, soit il y en a un qui pourra te dépanner, soit il y en a un qui pourra dire quelque chose. Toujours un mot sympa. Il n'y a pas de jugement négatif, jamais. Et c'est ça qui est bien chez nous. Voilà, je m'y sens bien. Et je crois que tout le monde s'y sent bien, j'ai l'impression. Bon, bah, j'ai décidé de présenter un vin clair, donc un 2023, de la parcelle Les Prés, donc Chardonnay. C'est un vin clair qui me tient à cœur parce que Les Prés, donc ça rentre dans la composition de ma cuvée qui s'appelle Les Prés Dieu, qui était ma toute première cuvée, qui a été élaborée la première fois en 2011. Donc tout est fait en fût à la maison, et chaque tonneau a un nom. Et en fait, à la dégustation, je goûte mes fûts, je leur donne un nom. Or, des fois, ce sont des divinités, là, cette année, c'était des vedettes de cinéma. Voilà, donc là, c'est un demi-muit, c'est Isabelle Adjani, qu'on va goûter. Alors, pour parler un peu de la parcelle, donc Les Prés, ça se trouve à Vrigny, c'est tout en haut du coteau, c'est entouré par la forêt, c'est exposé nord-est, sur des sables très profonds, c'est un climat froid, qui ne subit pas les gelées, grâce à l'apport tampon de la forêt, c'est un endroit qui mûrit très lentement, toujours, par ce côté forêt, voilà, et cette ombre portée rapide, donc c'est des raisins qui gardent toujours beaucoup d'acidité, et qui vont quand même très très bien mûrir, mais qui sont toujours cueillis en dernier, très tard en saison. C'est des chardonnays qui sont plantés sur du sable très profond, des sables du Cuisien. On a 7 mètres de profondeur de sable, incrusté de petits coquillages et très coquillifères. Donc quand tu plonges la main dans la terre, t'as vraiment l'impression d'être au-dessus d'un plateau d'huîtres. Et le but du jeu de ça, c'est de retrouver le goût ostréicole, le goût un peu salin, un peu marin dans mon vin. Donc les mélos se sont terminés en décembre. Donc ça commence seulement un peu vraiment à bien se déposer. Alors petite particularité de mes vins, j'adore garder la réduction sur mes vins. Je fais pas forcément exprès au départ, mais si je l'ai, j'essaie de la conserver. Là, voilà, il y a une petite note de réduction qui est là, qu'on ressent au nez. C'est un vin que j'ai pas goûté depuis 2 mois, donc je redécouvre en même temps que vous. Donc le nez, on a des arômes de grillé, mais on a des petits arômes derrière, toujours, c'est très très typique de chez moi, les arômes d'agrumes qui sont très très présents, côté citron, pamplemousse surtout, c'est très très pamplemousse sur la parcelle des prés. Et la bouche est toujours dans le même cinétique, c'est-à-dire un côté très vibrant et surtout très 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 vertical. Et par contre après, voilà, une bouche qui s'ouvre sur les agrumes, le pamplemousse et aussi sur les fruits jaunes, type pêche de vigne. Voilà, c'est vraiment la caractéristique des prés. Jamais trop de puissance. C'est pas un vin qui est musculeux. On n'est pas sur des choses très très larges. Voilà, ça montre pas les muscles. C'est pas Schwarzenegger. On est bien sur Isabella Gianni. C'est pas pour rien. Et pour revenir à ce nom-là, je lui ai donné ce nom-là, à ce tonneau-là, parce qu'il y a quand même un petit côté un peu tourmenté. C'est-à-dire, les arômes sont pas tout à fait nets. Voilà, c'est pas encore dévoilé. On sait pas où on va. On s'attend à quelque chose de très fin, très élégant. Mais il y a encore un côté un peu perturbé. Voilà. On n'est pas sur l'équilibre encore. Le vin est jeune. Hein. Mais c'est prometteur, on sait qu'il y a une grosse personnalité qui est derrière, mais voilà, personnalité tourmentée. Voilà ce que c'est que ce vin. Il y a toujours pour l'instant un côté perlant qui est là, il n'y a pas eu de soutirage dessus, il n'y a rien eu, bon, tout est fait chez moi de façon très 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 simple. Hein. Les raisins sont pressés, c'est mis dans un tonneau, ça ferme naturellement, la malose fait naturellement. Il n'y a pas de grande manœuvre de vinification. Après, pour revenir sur 2023 et parler vraiment de l'année, c'est une année qui paraissait simple au départ, voilà. On a eu beaucoup de flotte au mois d'avril. C'était très compliqué pour passer tout ce qui était cher, etc. Et surtout, ce qui faisait peur, c'était la grosse, grosse monte où beaucoup de raisins au départ dans les vignes. Mais après, voilà, avec un travail propre, soigné, j'ai enlevé pas mal de raisins. Et fut tout une fin de saison qui s'est personnellement pas trop mal passée, même s'il y a eu beaucoup de flotte au mois d'août. Mais on ressent d'ailleurs cette côté flotte. Hein. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un côté tourmenté dans le vin, c'est qu'il y a peut-être une légère dilution. Voilà. Je pense qu'à 3, 4 ans, 5 ans, ça sera des choses qui seront super ouvertes, super propres. Ouais, on prendra beaucoup de plaisir. Un plaisir simple, en fait. Bon, vraiment, la typicité des prédieux, avec la typicité surtout de 2023. Voilà. Petite dilution. C'est la vie, c'est la nature, c'est le climat. C'est pour ça qu'on fait des millésimes. C'est pour que chaque année soit différente.
Enfin, terminons le voyage du jour à Gier-sur-Seine, aux côtés de Thomas Barbichon.
Des pieds des vins, il y a des anecdotes, il y en a plein, hein, parce que c'est quand même un groupe qui est assez vivant. L'anecdote principale, c'est notre première rencontre pour l'organisation de nos premiers printemps des Champagnes. On se voyait pour la première fois, on était 3 mois avant les printemps, et on partait de zéro. Et au final, on a fini par faire, à nos yeux et aux yeux des visiteurs, un super printemps. Et on espère continuer comme ça et pas décevoir dans le futur et faire en sorte que ce groupe des pieds et des vins puisse perdurer dans le temps et être aussi novateur dans le futur. On se rend rendez-vous au 15 avril lors des printemps. On vous fera découvrir nos beaux vins clairs de l'année 2023 et puis quelques cuvées de champagne. Je présente un vin clair qui est donc vendange 2023. C'est un 100% pinot noir, issu d'une parcelle qui s'appelle les Charmes de Fin, qui est sur le terroir de Gier-sur-Seine, en limite de finage de Courton. On est sur un haut de plateau et c'est souvent des vins assez fins. C'est des milieux fins de vendange. Hein. Charmes de Fin, c'était une parcelle qui méritait un petit peu de maturité, malgré des maturités assez chaudes en 2023. C'est de la levure indigène. J'ai plusieurs levures indigènes qu'on a sélectionnées au fur et à mesure des années. Et donc là, j'ai cette même parcelle sur 3 levures indigènes. Et celle-ci, c'est un profil qui est intéressant parce qu'on retrouve le profil naturel. C'est ce qui correspond au profil des raisins qu'on avait à la vigne et de ce qu'on a goûté en dégustation sur baie. Et ça, c'est pour moi très 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 important. Je veux vraiment garder l'authenticité de ce qu'on a à la vigne, de façon à ce que le consommateur, 4 ou 5 ans après, puisse imaginer ce qu'était le raisin lors de la vendange. Donc on est sur un vin qui a une certaine discrétion aromatique, au nez c'est plutôt intéressant. En bouche on est quelque chose qui n'a pas une grosse ampleur, mais qui a une belle complexité aromatique, sans exubérance et avec une belle tension au final. C'est assez intéressant pour le millésime 2023, parce qu'on avait quand même des vignes avec des très grosses maturités. Et c'est le genre de vin qui va permettre en assemblage de rentrer, je pense, dans la cuvée réserve 4 cépages, où on entremêle les 4 cépages présents sur le domaine, pinot noir, pinot meunier, chardonnay et pinot blanc, à la proportion de chacun sur le vignoble. On a une cuvée qui a environ 70% de pinot noir, une dizaine de pourcents de chardonnay, environ une dizaine, 10-12% de pinot blanc et le restant en pinot meunier. C'est le genre de vin qui va rentrer, je pense, assez facilement dans cette cuvée-ci de la réserve 4 cépages. 2023, en fait, c'est un peu les bronzes fonds du ski. Hein. Si on prend une métaphore, c'est passé à ça de ma mère, hein, comme dit, je sais plus qui est dans le film. On a frôlé les gelées. On a eu beaucoup de chance avec le mildiou, parce qu'on est toujours passé très près et on en a toujours réchappé. On est passé pas loin des grosses attaques d'oïdium. Il a fallu être très 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 vigilant sur ces deux maladies-là, mildiou et oïdium, avec, bon, bizarrement, à la fois une pression climatologique qui était propice au mildiou et à l'oïdium. Et pour finir, 15 jours avant les vendanges, on a grêlé sur environ 2 hectares, sur les 9 hectares du domaine. Donc avec des orages avec une assez grosse fréquence, mais qui avait assez peu d'impact sur les raisins. Et on a eu la chance qu'il fasse chaud derrière et que ça ait pu cicatriser assez facilement. Au final, on aura pu tout avoir et on s'en sort avec une vendange plutôt très qualitative, une belle sortie de grappe, donc une vendange plutôt généreuse. Il y a eu du tri nécessaire, ça c'est indispensable. On est plutôt très 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 agréablement surpris de la qualité des vins aujourd'hui. Bon, il est encore un peu tôt, il faut que les vins puissent se réveiller. Maintenant, on verra ça d'ici le mois d'avril. Mais ça laisse au final présager un millésime qu'on n'espérait pas aussi joli.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce voyage sonore au cœur des terroirs des membres de l'association des Pieds et des Vins vous donnera l'envie de les rejoindre à Reims ce lundi 15 avril afin de partager avec eux cette nouvelle édition du Printemps des Champagnes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain afin de poursuivre cette immersion dans les vins clairs de l'année. Et d'ici là, je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast afin d'y partager cet épisode auprès de tous les curieux et amoureux du vin.